Salut à tous, bienvenue sur Hors Série. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette émission spéciale, une discussion que nous avons intitulée « À gauche de la présidentielle ». Depuis plusieurs mois, la gauche critique, celle qui ne se reconnaît pas dans le prétendu socialisme de gouvernement, cette gauche critique donc a montré les signes d'une vitalité spectaculaire, s'incarnant dans une très vigoureuse mobilisation contre la loi travail, s'incarnant dans l'expérience inédite de Nuit debout, s'incarnant aussi dans la résistance de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Nous vivons une époque là où convergent des forces politiques très exigeantes, très progressistes, qui laissent espérer peut-être de nouvelles perspectives. Mais voici que l'agenda de l'élection présidentielle vient imposer sa grille disciplinaire sur cette effervescence politique et semble sommer chacun de prendre parti. Alors faut-il en être ou pas? La gauche critique est-elle concernée par l'échéance de l'élection présidentielle? Doit-elle appeler à soutenir un candidat? Lequel? À quelles conditions? C'est des questions qui nous passionnent à Hors Série et c'est la raison pour laquelle nous avons saisi le prétexte d'un appel à soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon, appel intitulé « Faisons front commun ». Il a circulé sur les réseaux sociaux à partir du 7 septembre. Et donc cet appel invite à soutenir la candidature de Mélenchon. Il émane de la gauche critique, on peut le dire, et il invite à soutenir Mélenchon sans forcément s'enrôler dans les rangs de la France insoumise. Et cet appel a suscité très rapidement une tribune critique qui émane elle aussi, en gros, de la même gauche critique et qui voit dans cet appel une figure de la résignation politique, une résignation d'autant plus angoissante qu'elle appelle à soutenir un candidat qu'il faudrait, au contraire, combattre. Alors, la confrontation de ces deux positions débouche, me semble-t-il, sur une question qui est que faire avec la présidentielle quand on appartient à la gauche critique, quand on est vraiment de gauche. C'est une problématique sans doute assez complexe qu'on va juste explorer, esquisser, en compagnie de deux invités. Christophe Aguiton, vous êtes enseignant et chercheur en communication sociale et politique. Vous êtes animateur du mouvement Attaque France et vous êtes l'un des signataires de l'appel à soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon. L'un des signataires parmi des militants du PC, des membres de Ensemble, des intellectuels comme les Pinsons Charlot ou bien Razmik Kechayan que nous avions reçu ici. Face à vous, Laurent Lévy. Vous êtes essayiste, vous êtes membre d'Ensemble également et vous êtes l'auteur de la tribune qui s'appelle « Un cas de résignation politique » qui dénonce donc l'appel à faire front commun autour de Mélenchon donc comme un cas de résignation. Alors, pour commencer avec vous, Laurent, parce que votre texte ouvre lui-même plusieurs débats dont vous dites que vous souhaiteriez les conduire avec les signataires de l'appel. Votre texte donc ouvre plusieurs débats, notamment celui-ci. Vous regrettez dans votre texte l'incapacité de vos camarades à penser que l'on peut faire de la politique sans soutenir un candidat à l'élection présidentielle. Alors, est-ce que ça veut dire que vous considérez que la présidentielle ne concerne pas la gauche critique, qu'elle n'est pas son affaire ?
Non.
Non.
Non, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça et j'essaye de penser cette question dans la conjoncture. Je ne dirais pas en termes généraux que la présidentielle ne concerne pas la gauche critique ou qui que ce soit, dans la mesure où, même si c'est un piège résultant d'institutions détestables, ça donne, hélas, le cadre du débat politique dans les périodes où il a lieu. Ce qui d'ailleurs doit susciter des réflexions sur comment sortir de ce genre de cadre institutionnel. Mmh. Et ma position n'est pas en termes généraux qu'on doit les contourner, les éviter ou faire le dos rond en attendant. Mais si l'on pense dans la conjoncture, et si on se rappelle que l'enjeu de cette élection-ci, hélas, n'est pas d'avancer des pas dans l'hégémonie de la gauche et la constitution d'un pouvoir qui serait modifié. Nous savons, hélas, que ce ne sont pas là les rapports de force actuels. Mm-hmm. Se pose à ce moment-là la question de que faire, comment se déterminer. Mm. Nous avons, quand je dis nous, c'est beaucoup de gens à gauche, y compris beaucoup de signataires de cet appel « Faisons front commun », voulu militer pour l'émergence d'une candidature unitaire qui soit représentative de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, ce bouillonnement du mouvement social sous ses diverses formes. pour toutes sortes de raisons, nous y avons échoué à ce stade. Ça ne signifie pas qu'on doive définitivement tourner la page de ces efforts, mais il n'est pas déraisonnable de penser qu'aujourd'hui, ils n'aboutiront pas. Bien. Mmh. Alors, il y avait une candidature déjà déclarée à gauche, qui est celle de Jean-Luc Mélenchon. Et je conçois que la question se soit posée et se pose de dire qu'est-ce qu'on fait avec celle-là ? Qu'est-ce qu'on fait avec elle ? Elle avait bien des défauts qui ont été soulignés et qui, y compris, le sont explicitement dans cet appel « Faisons front commun », qui est sa volonté, lui, non pas de contourner l'élection, mais de contourner la gauche, c'est-à-dire de mettre en place sa propre structure de la France insoumise, qui est construite autour de sa personne, et dans une démarche qui évacue la pluralité, la diversité, l'existence d'organisations, de mouvements, de courants distincts du sien à l'intérieur de la gauche. En soi, c'est un problème. C'est un problème pour les constructions à venir d'un rassemblement à vocation majoritaire, mais ça n'est qu'un avenir. En soi, c'est un problème, et ce problème est souligné par l'appel. Puis, il y a d'autres choses. Qui, à certains égards, ne sont pas complètement récentes, mais qui ont pris un tour dramatique au cours de la dernière période. Cette autre chose, c'est que Jean-Luc Mélenchon, avec ses qualités et ses défauts, a toujours été une espèce de nationaliste. Je ne veux pas employer de nom d'oiseau et ne se reconnaîtrait pas forcément derrière ces mots-là, mais très porté sur le discours patriotique et tout ce qui s'ensuit.
Mais je voudrais qu'on y reviendra après, ça, parce que là, c'est des très, très gros morceaux du débat, effectivement, la question de la patrie ou de la nation.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a, dans cette candidature, des problèmes qui sont survenus, des traits qui pouvaient exister, mais qui sont survenus dans le débat public aujourd'hui, après les attentats, en particulier ceux de cet été, et l'énorme pression médiatique qu'il y a autour des questions de l'identité, etc. Ouais. C'est pour ça que j'évoquais cet aspect de Jean-Luc Mélenchon, parce que voilà, c'est là. Et à partir de ce moment-là, en effet, se pose la question, même si on ne peut pas dire en termes généraux que les présidentielles, on s'en fiche, si nous n'avons qu'un seul candidat à portée de la main, si le seul candidat possible est Jean-Luc Mélenchon, pour moi et alors, pour quelques autres, ça veut dire que nous n'avons pas de candidat du tout.
D'accord.
Et qu'il faut l'assumer et agir en fonction de
d'accord,
cela.
D'accord, je comprends. Alors, pour rester là sur des questions qui relèvent plutôt des prémices de la discussion, de votre côté, Christophe Aguiton, dans le texte dont vous êtes signataire, vous réclamez, tous les signataires, d'un esprit de responsabilité. Hein. Ce texte relève de votre part à tous d'une forme de la responsabilité. Alors, est-ce que ça veut dire que le refus d'en appeler à soutenir un candidat, ce serait une forme d'enfantillage ? Ce serait une forme d'irresponsabilité dans le contexte actuel de s'abstenir de soutenir un candidat.
Oh non, c'est tout à fait possible, les tas de gens le feront, sans aucun problème, bien entendu. Mais je voudrais faire un petit avant-propos qui, à mon avis, est en plein dans le sujet. C'est qu'en France, on est dans un pays de révolution, 19e siècle en tout cas, puis de grève générale, de mouvements sociaux. On a cette tradition qui est ancrée au cœur. Tout lycéen commence par une grève, en seconde, en première, et ça forme d'une certaine façon une des parties de l'identité française, en tout cas celle que je revendique. Bon. Mais à cause de cette histoire-là, et surtout à cause d'une phase très très particulière qui est juin 1936, on a tendance à penser que le mouvement social permet de faire avancer des idées sur le plan politique. Bon, parce que 36, ça a été ça. Ça a été une victoire électorale qui elle-même suivait une lutte antifasciste, la lutte contre les ligues, donc l'accord et syndical et politique dans les différentes forces de gauche, et puis la grève générale. Bon. Et on a un peu ce mythe fondateur qui est très très important chez nous. Mais quand on rentre dans le détail, y compris en France, on s'aperçoit qu'en général, quand vous avez un grand mouvement social, vous n'avez pas de bons résultats politiques sur le plan électoral. Et qu'il y a toujours une déconnexion entre les deux. 68, juste après 68, une chambre bleue horizon. Bon. Et l'idée que le mouvement social doit porter une alternative politique, une réponse politique, à mon avis, c'est se tromper. C'est se tromper parce qu'un mouvement social, il crée des choses très profondes, beaucoup plus qu'une élection. Le plus souvent, ça, c'est un point d'accord très fort que j'ai avec Laurent. Aucun problème, mais qui demande un peu de temps, qui demande de la maturation. Et quand on regarde l'histoire des dernières victoires électorales ou des dernières grandes réussites de la gauche radicale, c'est toujours ou presque toujours quand le mouvement social est au plus bas. comme si les tenants du mouvement social, voyant qu'à ce moment-là, c'est difficile de se saisir de la lutte parce que tout simplement, il n'y en a plus, et que c'est difficile de relancer une lutte quand elle s'est éteinte, utilisaient le bulletin de vote ou l'insertion dans un parti pour essayer de trouver les moyens d'exprimer cette radicalité. C'est vrai, on en parlera plus tout à l'heure, parce qu'après 2011, les choses basculent. C'est un des points forts sur lesquels je voudrais qu'on discute. Mais prenez les exemples les plus récents. Je viens de lire plusieurs papiers sur la victoire de Corbyn, qui était attendue, dans le Labour Party en Grande-Bretagne. Et les différents papiers que j'ai lus indiquent que c'est le moment où le mouvement social est le plus faible, que Corbyn est le plus fort.
Ouais,
parce que Momentum, qui est la structure qui porte la candidature de Corbyn, c'est la seule chose à faire. Donc quand vous êtes un militant critique, radical, ce dont vous avez parlé dans votre introduction en Angleterre, et que bon, les luttes, il n'y en a pas, ben vous allez dans Momentum et vous soutenez Corbyn. Aime Corbyn ou pas, c'est un autre sujet.
C'est l'un ou l'autre, quoi.
C'est l'un ou l'autre. Vous avez la même chose en Grèce. Ouais. La montée de Syriza se produit après une baisse très importante des mouvements qui étaient sur la place Sintagma, et c'est exactement la même chose en Espagne. Podemos n'apparaît que quand le MEKINSEE disparaît. Donc il y a toujours une phase de maturation. Or là, on a eu un grand mouvement social, qui continue en partie, il n'est plus au même niveau, mais il est très important. Et puis vous avez tout à fait raison de noter Notre-Dame-des-Landes, parce que c'est la prochaine grande initiative. La semaine prochaine, le 8 octobre plus précisément, il y aura une grande manifestation sur place. Donc on est vraiment dans un mouvement dans lequel il se passe plein de choses. Mais parce que justement, on est contemporain de ces événements-là, les temps de maturation n'ont pas eu lieu, et la présidentielle arrive au mauvais moment. Il arrive quand elle arrive, c'est pas le sujet.
Mais le moment est toujours mauvais.
Exactement. Mais en tout cas, on ne peut pas penser que le mouvement social va avoir une incidence directe dans la présidentielle. Je pense que ce serait une erreur de chercher ça, parce que là, c'est chercher un mythe inatteignable. Donc, pour la présidentielle, et c'est en ça peut-être que le mot de responsabilité peut être utilisé, on parle de choses beaucoup plus précises et circonstanciées. Et pour moi, les choses sont assez pragmatiques, mais pragmatiques dans un sens principiel. C'est que dans une présidentielle, qu'est-ce qu'on fait? Dans certains cas, on cherche à gagner, mais franchement, Mélenchon ne gagnera pas. Quoi qu'il fasse, même s'il bat Hollande,
ne le lui répète pas.
je ne lui dirai pas. Ça lui mettrait le moral dans les chaussettes. Mais évidemment, le mieux qu'il pourrait faire, ce qui serait déjà énorme, c'est d'être devant François Hollande, c'est-à-dire d'être le premier candidat de la gauche. Mais de là à passer devant Marine Le Pen et le candidat de la droite, c'est beaucoup. Et quand même, là, il faudrait beaucoup de vent dans les voiles. Ouais. Et on voit bien que c'est pas ça qui... Enfin, en tout cas, aucun sondage n'indique ça. Aucun. Aucun. Donc, le but là n'est pas tant de gagner et d'avoir un président de la République de gauche radicale Mélenchon à la Evo Morales ou à la Tsipras, pour parler d'exemples qui pourraient être apparus.
On ne vise même pas sa victoire. Alors, moi, que vise-t-on quand on appelle à soutenir Mélenchon en sachant qu'il n'acceptera pas
le résultat d'un vote, ça compte.
Ouais.
Et pour les Français qui sont engagés dans les luttes ou qui regardent avec sympathie ces luttes, le fait de savoir si la gauche radicale est à 2, 4, 5, 15, 20, ça change beaucoup de choses. Parce que dans un cas, ça démoralise, parce qu'on a l'impression qu'en gros, c'est toujours les mêmes qui gagnent, la droite, le pire, l'extrême droite, et qu'à gauche, ceux qui gagnent, c'est les sociolibéraux. Bon, si à l'inverse, vous avez un résultat important, c'est un encouragement pour les luttes.
Donc en fait, vous êtes en train d'essayer d'envoyer du carburant aux mouvements sociaux. Le principe de soutenir Mélenchon,
c'est ça l'essentiel.
C'est pour envoyer un signal.
Parce que, comme Laurent, je pense que c'est là, en effet, dans les luttes, dans les mouvements sociaux, que se construisent à la fois les rapports de force réels, face au patronat, à la droite, au gouvernement, etc., mais aussi les recompositions politiques de demain. C'est par là que ça passe.
En même temps, un pessimiste vous répondrait, mais enfin, le mouvement social n'a rien obtenu. On a fait une mobilisation très spectaculaire contre la loi travail qui est passée malgré tout, avec le 49-3, c'est-à-dire que les mouvements sociaux, ça gonfle le moral des troupes,
toujours
mais
moyen
sur le plan politique,
de tout regarder,
on a le sentiment qu'il n'y a pas de résultat.
C'est toujours les verts à moitié plein, à moitié vide.
Ouais.
Prenez les 30 dernières années, 30 années d'offensive néolibérale, sur tous les sujets, gouvernement de droite comme de gauche, par ailleurs. Bon, regardez maintenant les grands chiffres, qui sont la part du produit intérieur brut qui est redistribuée, qui est socialisée, 50%, rien n'a bougé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le néolibéralisme a fait changer des choses. Je ne vais pas vous dire que rien ne s'est passé. La loi El Khomri est un parmi beaucoup de choses. Mais il y a quand même, en particulier en Europe, pas qu'en Europe, des résistances telles qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un monde d'un capitalisme sauvage où tout soit possible.
Ah, donc vous pensez que les mouvements sociaux ont réussi à freiner le développement du néolibéralisme
Regardez,
les dernières décennies.
Si vous avez des enfants, moi j'en ai, ils vont à l'école, c'est gratuit.
Oui, d'accord.
Bon, allez, dans beaucoup de pays, au nord comme au sud, c'est pas gratuit. Bon, alors c'est pas partout, c'est l'Europe continentale. Bon, mais c'est quand même toute l'Europe continentale. Et tout ça, c'est pas secondaire.
Quand
vous comparez aux États-Unis, à ce qui se passe au sud, etc. Donc tout ça pour dire que les mouvements sociaux pèsent beaucoup plus qu'on ne le croit, pris dans leur totalité et dans leur variété.
D'accord.
Et je reviens à l'élection maintenant, parce que c'est ça le sujet et l'entrée. Bon, pour moi, les choses sont vraiment simples. Les deux points clés sur lesquels se distingue Jean-Luc Mélenchon, c'est les questions sociales, avec la loi El Khomri comme exemple, et la critique du gouvernement néolibéral, etc. Et mieux encore qu'en 2012, parce qu'il n'y a plus le Parti communiste français, les questions environnementales.
Oui,
donc il est clair sur le nucléaire, il est clair sur Notre-Dame-des-Landes, ce qui aurait été très compliqué avec le Parti communiste, qui en Loire-Atlantique a voté pour l'installation du nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes, et qui sur le nucléaire est, comme on le sait tous, pas d'une grande clarté, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on a un Mélenchon qui est bien sur les questions sociales, qui est bien sur les questions environnementales. Ce qui ne veut pas dire que tout est bien. Hein. On partage beaucoup de choses sur les critiques qu'on peut, avec Laurence, qu'on peut lui adresser. Mais en tout cas, sur ces deux points clés, qui sont quand même deux points absolument centraux dans le débat politique d'aujourd'hui, c'est le seul à exprimer ça.
Bon.
Qu'est-ce qu'on a à côté? Parce que imaginons, vous savez, en mathématiques, on utilise l'expression raisonnement par l'absurde. Hein, bon. Donc on pense que ce n'est pas le bon candidat, on se bat pour qu'il ait le moins de voix possible, ou en tout cas pour qu'on en parle le moins possible, on arrive à faire disparaître Mélenchon. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a trois candidats. Il n'y en aura pas d'autres. Hein. Il n'y aura aucun candidat unitaire, etc. Maintenant, la messe est dite d'une certaine façon. Hein. Bon. On a Duflot, on a Poutou, on a Artaud, qui à eux trois font. C'est pas négligeable. J'ai regardé les derniers sondages avant de venir ici. En ce moment, Mélenchon est crédité de 13 à 15, c'est beaucoup.
Ouais.
Et les trois candidats sont crédités de 3 à 5, ce qui est beaucoup aussi.
Donc, au total ou chacun?
Au total.
Ah, d'accord.
Chacun ne répond pas. Au total. Mais ce qui donne, si on prend les additions maintenant, 13 plus 3, 16, 15 plus 5, 20. Hein, on est donc dans un créneau, aujourd'hui, hein, on est fin septembre, on verra, on a encore 6 mois avant la présidentielle, de près de entre 15 et 20%. Ce qui est beaucoup plus que toutes les élections précédentes, y compris celle de 2002, qui était comparable au sens où on sortait déjà d'un gouvernement de gauche, c'est le gouvernement Jospin.
Ouais.
Et c'est là où Besancenot et Arlette Laguiller avaient fait 10. Si on additionnait Robert Rue et je ne sais plus qui était pour les Verts, Voynet, ça faisait 13 à peu près. Hein, bon, donc on était en dessous déjà. Donc ça, c'est déjà bien. Bon. Mmh. Et maintenant, il n'y a plus Mélenchon. Qui va penser que ces 15% vont se répartir un tiers sur Artaud, Poutou et Duflot? Évidemment pas. Tout ça va s'évaporer.
D'accord.
On en aura un peu chez Hollande, on en aura un peu à l'extrême droite, on en aura beaucoup dans l'abstention. Et donc on aura à l'arrivée un résultat électoral qui sera une toute petite extrême gauche, et par ailleurs extrême gauche, ou gauche radicale, peu importe.
Oui.
Et par ailleurs divisée, donc totalement démoralisant. Hein, bon, c'est ça pour moi la seule raison. C'est une raison tactique. Hein, c'est pas du tout l'essentiel. Très franchement, ce que je voudrais dans cette discussion, c'est qu'on puisse parler plus globalement des conditions d'émergence de la gauche radicale, y compris sur le plan politique, parce que ça m'intéresse. Évidemment, mais en tout cas sur cette élection-là, pour moi, les choses sont beaucoup plus précises et beaucoup plus simples.
D'accord.
C'est comment faire pour donner le moral le meilleur possible à ceux
D'accord.
qui luttent avec nous. Et pour ça, Jean-Luc Mélenchon, avec un point de vue critique, est le seul qui peut le faire.
Alors, Laurent Lévy, comment vous réagissez à cet argument du côté du soutien à donner aux mouvements sociaux?
Mais d'abord, je suis pas certain que ça donne ce soutien-là, c'est-à-dire même en se limitant à cet aspect de la candidature Mélenchon, qui n'est qu'un aspect. Je ne voudrais pas qu'on ne parle que de celui-là.
Vous voulez dire l'aspect écosocialiste?
Oui, voilà, c'est ça. Parce que ce sont précisément les autres aspects qui me conduisent à dire que ça n'est pas un candidat possible.
Oui, mais la question peut se poser de savoir si en reprochant des questions identitaires, raciales, nationales, vous ne vous laissez pas vous-même piéger par l'hégémonie du débat qui veut absolument qu'on ne parle en gros que d'islam, alors que lui
défend bien, j'entends bien la question. Ce n'est pas que l'islam. Hein. Quand, par exemple, un candidat à la présidentielle de gauche rappelle une chose qu'il a toujours dite, mais rappelle aujourd'hui qu'il est hostile au droit d'installation des migrants.
Enfin, quand, il est par ailleurs pour la régularisation des sans-papiers.
Oui,
il n'est pas sur une politique d'autarcie.
Il est pour la régularisation des sans-papiers qui sont ici. Mais ceux qui ne sont pas ici, d'accord, les migrants qui meurent en Méditerranée, meurent parce qu'ils n'ont pas le droit de venir. D'accord, s'ils pouvaient prendre l'avion au lieu d'avoir à prendre leur bateau, ça leur coûterait moins cher. Et il ne mourrait pas aujourd'hui. Je veux dire par là que répéter aujourd'hui qu'on est contre ce droit d'installation, reprocher à Angela Merkel d'avoir accueilli 800 000 réfugiés en disant « mais quoi, mais on ne pourra pas faire ça tous les ans, etc. », ça tue concrètement aujourd'hui. Ce n'est pas une question abstraite. C'est pas, alors, effectivement, ceux qui sont là, il dit « il faut les traiter dignement ».
Ben
c'est la moindre des choses.
Il insiste beaucoup. Et on ne voit pas très bien. Est-ce qu'il serait crédible? Est-ce qu'un candidat à la présidentielle serait crédible aujourd'hui sur une ligne qui serait à dire mais bien sûr, bienvenue à absolument tous les réfugiés du monde entier, on prend tout le monde, alors qu'on sent bien sur le plan pragmatique que ça va être extrêmement difficile à gérer. Il y a une question de crédibilité.
D'abord, on n'a pas à prendre tout le monde. Ensuite, la question de la crédibilité, je ne veux pas la poser dans ce sens-là. Je ne lui demande pas de dire venez, venez, venez. Je lui demande simplement de ne pas dire venez pas. Parce qu'en disant « ne venez pas », il condamne des gens à mort. Et ça n'est pas complètement anodin, ça n'est pas complètement accessoire.
Mmh.
Maintenant, je veux en revenir à ce que disait Christophe à l'instant. En effet, nous avons le problème de ce que sera la recomposition politique à gauche. C'est l'enjeu véritable de cette élection, c'est comment va se reconfigurer la gauche dans l'après-coup. Et si elle doit se reconfigurer autour d'un profil bonapartiste, pas forcément xénophobe, mais favorisant la xénophobie, si le leader de la gauche de demain, c'est cet homme-là, c'est-à-dire celui qui dit à propos de l'interdiction pour les femmes voilées d'aller à la plage qu'on a tort de le leur interdire parce que c'est céder à la provocation militante. En quoi consiste le fait de vouloir aller à la plage?
Il parlait du burkini et non pas du voile. Attention.
Mais c'était pas... ça. Non, mais le burkini, il n'y en a pas. Tous les incidents qu'il y a eu étaient des incidents de femmes voilées qui allaient à la plage. Les burkinis, les photos qu'on a vues, elles étaient prises en Australie.
Oui, mais lui, quand il a parlé de provocation salafiste, Mélenchon, c'était pour parler du burkini, pas du voile.
Mais ce qui était en question, c'était bien la présence de femmes voilées à la plage. Et ça n'était rien d'autre. Mm-hmm. On n'a pas pourchassé des femmes en burkini, ça n'existe pas. Enfin, c'est un nom de marque.
Je crois qu'il y a eu trois occurrences.
C'était pas ça. C'était pas la question qui était concrètement posée. Ce que je veux dire, c'est que d'une façon générale, quand on parle, par exemple, à juste titre, refus des diktats de l'Union européenne sur les politiques qu'on pourrait mener en France. On parle à juste titre. Si on appelle ça patriotisme économique, ce que fait Jean-Luc Mélenchon, ce qu'on fait, c'est favoriser le réflexe de ceux qui disent « oui, patriotisme économique ». C'est-à-dire, ce n'est pas le contenu qui est en cause, c'est le mot d'ordre. Et ce sont des mots d'ordre absolument délétères dans cette conjoncture où c'est dans ces termes-là que les questions sont posées.
Le mot « patrie » est perdu pour la cause progressiste.
Perdu, on verra s'il est retrouvable,
j'en sais rien. Parce qu'il y a une tradition progressiste qui semble de la nation ou de la patrie. Enfin, Robespierre utilisait ces mots-là, et ce n'était pas le camp de la réaction.
Refaisons ce débat en 1793, on verra comment on le mène. Mais si nous le menons aujourd'hui, oui, je pense que ce qui caractérise ce genre de mot d'ordre, c'est sa version à l'extrême droite. C'est-à-dire, c'est une chose qui, de façon presque mécanique, favorise. On a un exemple comme ça avec le Brexit. Moi, je trouve que je pense qu'il est impossible de mener une politique progressiste en Grande-Bretagne dans le carcan de l'Union européenne. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais avec un débat sur le Brexit qui a été polarisé autour des questions de l'identité et de l'immigration, le résultat réel du Brexit aujourd'hui, c'est cette flambée raciste, ce déferlement de mouvements racistes, etc., auquel ceux qui, sur des bases de gauche, voulaient que l'Angleterre quitte l'Union européenne, ne peuvent rien. Parce que les mots d'ordre ont ce genre d'effet qui dépasse de très loin les discussions raisonnables qu'on peut avoir à dire « ah oui, mais ça peut aussi être pris de telle manière ». Ça n'est pas pris de telle manière. Et les basculements se font très vite, et les basculements qui se font aujourd'hui sont dans ce sens négatif. Oui. Donc, recomposer la gauche, oui. Penser que la recomposer en ayant mis au premier plan et en considérant comme le porte-parole naturel de la gauche radicale, celui qui, un, dit « c'est autour de moi que ça se passe », deux, dit « vos organisations et vos alliances, allez vous faire voir », trois, dit ce que je viens de rappeler sur les migrants, et c'était les histoires des travailleurs détachés qui volent le pain de ceux qui sont déjà là, etc.
Il affirme qu'il y avait des guillemets dans sa tête qui ne pouvaient pas être audibles.
Qu'il y ait ou non des guillemets ne change pas grand-chose à l'effet de ce genre de propos.
Mais là, il y a deux discussions un peu différentes qu'on a vraiment intérêt à séparer. Il y en a une première, c'est sur l'effet des propos de Jean-Luc Mélenchon dans le débat politique. Bon, moi, j'ai des accords avec Jean-Luc Mélenchon, je peux les citer. J'ai des accords sur la Syrie, qui pour moi ne sont pas secondaires, parce que c'est quand même un des lieux de conflit les plus dramatiques aujourd'hui, et considéré, mais comme des tas d'autres, dans la scène politique française, que l'intervention des Russes est plutôt positive, et pour moi, une ligne rouge. Mais ça ne fait pas partie du débat qu'on aura pendant la présidentielle. Le paradoxe, c'est que la position de Mélenchon est partagée par François Fillon, probablement Nicolas Sarkozy et probablement le Parti communiste français avec qui Jean-Luc Mélenchon est en pleine opposition, ouais. en plein conflit. Donc on voyait bien que ce sujet-là qui, moi, me tient à cœur, hein, qui, je sais que dans l'ensemble, tient à cœur à beaucoup, beaucoup de militants pour de bonnes raisons, hein, parce que ce qui s'y passe est absolument monstrueux et vraiment...
À moi aussi, je ne l'ai pas vu au premier plan.
Je sais, je n'ai aucun souci avec ça, je sais qu'on partage les mêmes idées là-dessus. Ça, c'est un vrai désaccord. Bon. Sur les questions de patrie, d'immigration, etc., moi, je suis sur les mêmes positions que Laurent, hein, en particulier sur la liberté d'installation, mais là, il faut être raisonnable dans ce qu'on dit et il faut regarder ce que dit vraiment Mélenchon, quitte à avoir avec lui le débat sur ça. Il faut prendre les points un par un. Travailleurs détachés, hein, bon, la phrase qu'il a utilisée, est-ce qu'il avait des guillemets ou pas,
était
très mauvaise, il ne fallait pas l'employer, aucun problème. Mm-hmm. Hein, bon. En même temps, moi, j'ai regardé les positions de Jean-Luc Mélenchon. Il a les positions qu'ont à peu près toutes les forces politiques en France, sauf vraiment les anti-européens acharnés. C'est pas de problème avec les travailleurs détachés, à une condition clé, c'est que tous les droits soient les mêmes.
Bah oui.
Vous savez qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est-à-dire, c'est le cas sur le salaire, mais souvent, c'est du salaire minimum, alors que les autres ont un peu plus. Hein, bon. Et puis surtout, les droits sociaux sont ceux du pays d'origine,
voilà.
Hein, donc pas les
c'est
mêmes.
Hein, bon. Et donc, c'est une sorte de dumping social, quand on le laisse comme ça.
Mais cette position, qui est la mienne, qui est visiblement la vôtre, qui est vraiment celle de Laurent, qui est celle de Jean-Luc Mélenchon, est partagée, alors là, des Républicains au front de gauche, par tout le monde. Par tout le monde. Je veux dire, c'est la position que la France défend pour une fois qu'il y a une position à peu près unifiée. Est-ce qu'elle sera réellement négociée à Bruxelles? C'est un autre sujet. Mais donc, c'est pas quand on va sur le fond des choses, hein, au-delà des formules qui sont mauvaises, hein, je le partage.
Mais ça compte, les formules.
Mais bien sûr. Mais attendez, je ne suis pas ni à France Insoumise, ni au Parti de gauche. Bon, mais tout ça pour relativiser les choses. Bon. Prenons maintenant l'affaire de l'immigration et de la liberté d'installation. Moi, je suis pour. Mais comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, vendre ça aujourd'hui dans le climat qui est le nôtre, bonne chance. Hein, bon. Et je pense que les questions clés, ça va être des questions très pratiques. Première question, est-ce qu'on expulse ou pas? Lui dit non. Ça va être à peu près le seul. Ça va être à peu près le seul à dire ceux qui sont ici doivent être régularisés. Hein, les autres, ils disent charter et dehors. Ouais. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et quand je dis les autres, c'est tous. Hein, de Hollande à évidemment Le Pen, en passant par tous les candidats de droite. Bon. Après, on va pouvoir pousser plus loin. Bon. Les réfugiés, être contre l'accueil des réfugiés, c'est la Convention de Genève et tous les traités que les Nations Unies ont mis en avant et toutes les décisions des Nations Unies. Il n'est pas possible de rejeter les réfugiés. Il n'est pas possible de le rejeter ou ceux qui demandent l'asile. Ça aussi, c'est quelque chose que Jean-Luc Mélenchon sera obligé de préciser, tout simplement parce que ça fait partie un corps commun qui est celui non seulement du front de gauche mais de beaucoup de formations politiques en France et pas simplement à gauche. Hein. Bon. Donc les réfugiés, pas trop de problèmes. Toujours sur les réfugiés, prenez les avancées du débat aujourd'hui dans d'autres sphères que la France. Nations Unies, Assemblée Générale de 2016, Barack Obama, c'est pas une voix secondaire, dit qu'il faut prendre en compte les réfugiés climatiques, qui ne sont pas reconnus par les Nations Unies. Les Nations Unies, quand on parle de réfugiés, c'est les réfugiés de guerre ou de conflits politiques ou l'asile politique pour les dictatures ou toute autre situation de déni de liberté. Bon. Les réfugiés climatiques, ça ne faisait pas partie évidemment de la Charte des Nations Unies ou des différentes déclarations puisque c'était évidemment pas encore intégré. Bon, si on commence à intégrer ça, et Jean-Luc Mélenchon n'est pas mauvais sur la question environnementale, là on voit bien que le nombre de réfugiés et le lien entre réfugiés et ceux qui passent la Méditerranée aujourd'hui et qui meurent dans toutes les conditions que tu dénonces à tout à fait juste titre, tout ça change. Bon, c'est tous ces débats-là qu'il faut avoir avec lui et essayer de voir comment on peut faire évoluer les choses. Bon. Et là-dessus, je serais moins pessimiste que toi. Alors après, il y a un troisième désaccord qui lui va porter sur la composition politique, qui est la façon de concevoir ça. Mélenchon, il a une vision qui est un mixte entre Chavez, De Gaulle, Chevènement. Bon, c'est l'homme du recours, pour le dire vite. Alors, en général, il rajoute qu'à son âge, c'est un peu comme quand De Gaulle disait « Vous me voyez à mon âge faire un coup d'État
ouais. ».
Bon, Mélenchon a un peu le même genre de coquetterie. Bon, et tant mieux qu'il l'ait, il vaut mieux l'avoir plutôt que se déclarer futur dictateur. Ça va de soi. Mais bref, Mélenchon a une vision très personnalisée de la gestion du pouvoir, de la façon dont on fait de la politique, dont on reconstruit des courants politiques que je ne partage pas. C'est
et
pas
pourtant,
du tout ma culture.
Il a mis en œuvre un certain nombre de procédures quand même sur la France Insoumise, cette plateforme de contribution des insoumis. Il a mis en œuvre des procédures qui sont censées nous préserver.
Mais avec des choses que moi je partage, par introduire un peu de tirage au sort.
Oui, hein,
il le met. Mais dans un système où, je ne sais pas si vous avez lu sa déclaration, Laurent en parlait tout à l'heure, dans lequel il dit, bon, voilà, le 15 octobre, première rencontre de la France Insoumise, on va mettre un peu de tirage au sort. Très bien, moi je suis tout à fait favorable. On va faire de la participation massive, on va ouvrir les sites web, etc. Mais à la fin, s'il y a un désaccord, c'est moi qui trancherai. C'est moi qui trancherai.
J'ajouterai une chose, c'est qu'il il donne comme modèle de France Insoumise ce qu'il avait fait avec le M6R, d'accord. Où il y avait pareil ces histoires, Mouvement pour la 6ème République, où il y avait ces histoires de tirage au sort, etc. Et en définitive, ils ont en effet constitué un groupe de direction
une
d'animation.
Une assemblée représentative du M6R tiré au sort.
Et ils ont tiré,
ils
ont tiré comme ça au groupe un organisme de direction. Point à la ligne, qui ne s'est jamais réuni. Point.
C'est pas vrai.
C'est-à-dire que
cette assemblée s'est réunie.
Non,
une fois.
L'assemblée. Mais, oui. Mais quand ils ont tiré leur bureau, leur je sais pas quoi, leur direction au sort. Parmi cette, à l'intérieur de cette assemblée, ils n'ont plus jamais été convoqués. Je connais des gens personnellement qui ont été tirés
vous
au sort.
Vous avez été tirés au sort.
Qui ont été tirés au sort.
Moi, je n'ai pas été tiré au sort, mais on m'a proposé un poste, justement, nommé. Et moi, j'ai dit non, je suis pour le tirage au sort, je ne suis surtout pas nommé.
Mais il y a des gens qui ont été tirés au sort et qui donc se retrouvent dans cet organisme de direction, ils n'ont jamais été convoqués à une réunion.
D'accord, oui.
C'est-à-dire qu'il y a un espèce d'esbrouf là-dedans qui est assez considérable. Et qui surtout fait comme si il n'y avait rien d'autre à côté. C'est-à-dire que France Insoumise s'organise comme elle le veut. Mais lorsqu'elle dit « on peut me soutenir », c'est-à-dire en gros adhérer à titre personnel à des groupes d'appui à Jean-Luc Mélenchon, mais je ne veux pas entendre parler des organisations qui me soutiendraient, etc., ça se met à poser des problèmes considérables. Et si nous reconfigurions la gauche demain à partir de ça, nous irions d'autant plus droit à l'échec que ça s'accompagne de ce dont on parlait tout à l'heure, sur le style de mot d'ordre, sur le type d'intervention publique
à
travers laquelle texte, on sera mangé tout cru.
Le texte Front commun, que j'ai signé avec beaucoup d'autres, fait exactement l'inverse de ce que veut faire Jean-Luc Mélenchon.
En effet.
Exactement.
En effet.
Il faudrait laisser Christophe finir d'écrire et ensuite vous répondez, parce que je pense que nos spectateurs
d'accord, pas. D'accord.
C'est-à-dire que France Insoumise, c'est exactement ce que décrit Laurent. Donc pas de problème sur le constat. C'est Jean-Luc Mélenchon tout seul qui demande aux gens d'adhérer. Enfin, je ne reprends pas tout ce qu'il a dit, que je partage. D'accord. Et c'est cette phrase incroyable qui est si le 15 octobre il y a des désaccords, c'est moi qui décide. Bon, quand on dit ça, l'affaire est pliée. Il n'y aura pas de mouvement de recomposition autour de Jean-Luc Mélenchon. Déjà aujourd'hui, autant dans les sondages, il est très haut. A priori, les sondages qui sont de tous les instituts, je ne pense pas qu'ils soient trafiqués du tout. Je pense qu'ils correspondent à quelque chose. C'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut s'engager de façon critique dans cette campagne. Mais quand vous prenez France Insoumise, ça n'existe pas. C'est des micro-comités. C'est très respectable pour ceux qui
sont. Oui, il y a des mobilisations locales dans lesquelles ceux qui sont impliqués, en tout cas, vivent une expérience politique au moins aussi forte que ceux qui sont engagés dans les mouvements sociaux. C'est une pratique de la politique.
Mais ça n'a rien à voir, c'est des échelles de 1 à 100, échelles de 1 à 1000. On est dans toutes petites choses qui sont enthousiasmantes pour ceux qui en font partie, y compris les jeunes qui s'y sont engagés. Ce n'est pas du tout un point de vue de mépris ou de rejet, au contraire, c'est tant mieux. Je préférerais vraiment que plus de gens s'engagent en politique. Et quels que soient les cadres, du moment évidemment que ce soit ceux avec qui on peut avoir des valeurs communes. Donc aucun problème avec France Insoumise, mais c'est minuscule. Par rapport à ce qu'était le mouvement social de ce printemps, on est vraiment sur des échelles qui n'ont plus rien à voir. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une déconnexion très forte, mais qui avait existé dans d'autres expériences. Quand Besancenot faisait près de 5%, quand Arlette Laguiller faisait 5%, c'était pas 15, c'était 5. Il y avait du monde dans les meetings parce que les gens venaient voir, mais les comités de soutien, c'était très très faible. C'était plutôt ouvrière ou la LCR, puis le NPA. C'est des choses minuscules. Et avec France Insoumise, c'est un peu à ça qu'on a affaire aujourd'hui, ce qui n'est pas du tout méprisant. Il y avait des gens qui étaient à lutte ouvrière.
Et alors, quand vous dites notre texte, quand vous répondez à Laurent, notre texte fait autre chose. Donc,
le texte dit que ce que nous voulons faire, c'est dans les quartiers, dans les villes, dans les départements, enfin bref, à tous les échelons locaux possibles et imaginables, on se retrouve avec tous ceux qui sont pour l'expression d'une gauche radicale importante, donc militants du Parti communiste, voire Parti communiste, ensemble, des gens qui viennent du Parti de gauche, qui, pour une partie d'entre eux, ne sont pas d'accord avec France Insoumise, parce que les choses sont plus compliquées, y compris chez eux. Et puis, tous ceux qui, dans le mouvement social, ont envie de peser sur cette présidentielle qui n'est qu'un moment. Rien de plus qu'un moment, et de façon large, pour éviter évidemment une espèce de mainmise par qui que ce soit. Si c'était quelqu'un d'autre que Jean-Luc Mélenchon, ce serait pareil. D'un mouvement qui se construit. Et moi, ma conviction, c'est que la recomposition politique, elle aura lieu de façon très différente. Elle aura lieu probablement après la présidentielle. Très probablement pas dans le cadre de la présidentielle, à cause de tous les défauts qu'on voit dans la façon dont Jean-Luc Mélenchon ou d'autres candidats mènent leur campagne, mais aura lieu plutôt dans la logique de ce qui s'est passé à Nuit debout, ce qu'on a vu en Espagne, etc. C'est-à-dire des choses beaucoup plus horizontales. Aujourd'hui, dans la jeunesse ou dans les mouvements que je fréquente, syndicaux ou autres, personne n'a envie d'avoir le sauveur suprême, quel qu'il soit, qui dise ce qu'il faut faire et penser. Les gens ont envie d'exprimer leurs opinions. Bref, donc je pense que c'est comme ça que ça va se construire et pas du tout autour d'un homme ou d'une femme présidentielle.
Ça me donne envie de répondre sur trois points. Le premier, c'est lorsque tu dis, ce que vous dites d'une façon générale, il faut avoir le débat avec Jean-Luc Mélenchon. Ça repose sur l'illusion qu'on peut avoir le débat avec Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que quand il a sorti ce truc sur les travailleurs détachés, on lui a écrit, mais gentiment, pas de façon publique, pas machin, etc., en disant, ça va pas, il faudrait... Il n'a pas daigné même répondre. C'est-à-dire que
En fait, c'est pas pour ça qu'il est revenu ensuite après sur cette expression, parce que peut-être il vous répond pas, mais après, sur son blog, trois jours après, il reprend la formule en expliquant
aussi qu'il y avait un principe de responsabilité, que dans le fond, il avait raison. Ce qu'il a répondu, c'est « je persiste et signe ». Mais, on va pas prendre le temps d'examiner en détail sa réponse, mais vraiment, c'est à ça que ça revient. Donc, même dans sa propre organisation, le parti de gauche, il a mis les gens devant le fait accompli. C'est-à-dire que ça n'est pas un homme avec qui on discute, ça n'est pas un homme qui a décidé de dire « tiens, je tends mes oreilles », comme il l'a fait en 2012. Il a décidé de ne pas le faire. Et c'est un vrai problème. L'idée « on va discuter, débattre, etc., on va peser sur la campagne » est, à mon avis, une idée tout à fait fantasmatique, et quiconque a pratiqué Jean-Luc Mélenchon le sait. La deuxième chose, c'est l'idée d'un engagement critique dans sa campagne, d'un soutien critique. Parce que dans le soutien critique, je vois très bien ce que peut être le soutien. Je ne vois pas du tout ce que peut être la critique. Et d'ailleurs, c'est assez révélateur que le texte « Faisons front commun » évoque l'existence de divergences ou de désaccords.
Oui, qui ne sont pas formulés, on ne rentre pas dans le détail.
Sans même en citer, fût-ce entre parenthèses et fût-ce dans une lettre partielle, quoi que ce soit. C'est-à-dire que ces désaccords-là n'entre pas dans le truc. Et d'ailleurs, il est significatif que quand on dit « mais regarde ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, etc. », les gens qui disent qu'on va lui faire un soutien critique ne disent pas « ah oui, t'as raison, il faut critiquer ça », disent « mais non, c'est pas vraiment ce qu'il a dit, etc. »
Oui,
c'est-à-dire qu'en fait, le soutien critique, on a le soutien et pas la critique.
Laurent, j'ai passé cinq minutes à expliquer comment sur la Russie, sur le fonctionnement, sur la construction, j'ai bien compris,
mais se trouve que ce n'est pas dans le cadre d'une campagne. C'est-à-dire qu'il est assez difficile de dire dans une campagne électorale « voilà, je suis pour telle chose, contre telle chose, et donc j'appelle à voter pour celui qui dit le contraire. » C'est très compliqué.
C'est pour ça que j'ai bien dit que les deux points clés pour moi, c'est le social et l'environnemental. C'est ça qui va la campagne.
J'ai bien compris. Et que donc la critique sera tue.
Non, que la critique existera, mais à sa place, qui est la place que ces thèmes-là auront dans la campagne, c'est tout.
Le point suivant sur lequel je voulais répondre, c'est toujours à propos de ce texte, sur les conditions qui sont mises, qui sont évoquées. Genre, on peut rentrer dans cette campagne à condition que, etc. Aucune de ces conditions n'est en voie d'être réalisée. Aucune. Et parce qu'aucune de ces conditions n'est en voie d'être réalisée, les camarades qui ont signé cette tribune se proposent aujourd'hui d'entrer en campagne en l'absence de la réalisation des conditions qu'ils ont eux-mêmes fixées.
Mais de quelles conditions parlez-vous?
Aucune
condition.
Si,
t'as mal lu, Laurent.
Nous décidons.
Non, ce qu'on dit, c'est ce qu'on va faire, ce qui n'a rien à voir. C'est une déclaration d'intention, c'est pas un texte de condition. Moi, je pense comme toi que convaincre Jean-Luc Mélenchon sera difficile pour des tas de raisons. Son caractère, les rapports de force, enfin, des tas de choses.
Oui, alors attendez, je voudrais nuancer ce point-là, parce que par exemple, sur la question du tirage au sort, dont tout le monde a l'air de se réjouir, pour l'avoir fréquenté sur cette question-là, il y a quelques années, il disait c'est pas dans mon logiciel, il n'en est pas question, et on lui a parlé beaucoup de tirage au sort, et maintenant il dit ah oui, c'est intéressant, et il l'intègre. Et donc, même si en face à face, il n'est pas forcément très amateur de polémiques, de contradictions et tout, en réalité, il intègre, il incorpore petit à petit les critiques ou les suggestions qu'on peut lui faire.
L'exemple que vous avez demandé, qui est dans ce texte, afin de nous engager tous et toutes ensemble dans ce combat politique, il est indispensable que soit constitué au plan national, avec toutes les parties concernées, un lieu d'échange et de coordination qui rendra compte de notre diversité et sera ouverte. Mais y a-t-il un millimètre d'avancée dans cette direction?
Non, c'est ce qu'on va commencer à faire. Ce qu'on est en train de faire, là, pour expliquer un petit peu, c'est de faire des réunions au début des signataires, pour commencer, parce qu'il n'y a aucune raison que les initiateurs décident à la place des signataires. Et ce qui va être proposé aux signataires, c'est que dans tous les quartiers, nous habitons dans un quartier voisin, parce que je suis dans le 20e et vous êtes juste à côté, on fasse un comité avec des gens de tous ces partis-là qui se réunissent, dans lequel France Insoumise sera invité, mais qui ne sera pas France Insoumise. Moi, je ne suis pas membre de France Insoumise. Donc on va faire ça, pratiquement. Et on représente du monde, parce que France Insoumise est petite, comme je vous le disais tout à l'heure.
Donc c'est une espèce de groupe de travail parallèle qui va faire une campagne pluraliste,
exactement pour les raisons qu'a indiqué Laurent, parce que les choses ne se réduisent pas à un courant politique ou à un autre, ce serait vrai pour d'autres que France Insoumise. Il s'agit de mettre en mouvement des forces un peu diverses, des gens qui viennent du mouvement social, et puis des différentes composantes politiques pour agir ensemble. C'est tout. Et donc on ne va pas rentrer dans la seringue France Insoumise pour pour toutes les raisons que Laurent a indiquées, que je partage à 100%, il n'y a pas de désaccord là-dessus. Bon. Et donc, on va le faire.
D'accord.
Et on va là commencer à mettre en place. Il y a une première réunion le 11 octobre à la GK. Si certains de ceux qui regardent ce programme veulent venir, ils sont les bienvenus pour ce qui est de la région parisienne.
D'accord.
Il y en aura d'autres à Marseille, à Montpellier, dans des tas d'autres villes de France, pour lancer ce mouvement. Et c'est vraiment un texte qui est une déclaration d'intention. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du mouvement social, surtout d'ensemble, c'est vrai, et beaucoup de gens qui viennent du Parti communiste, où il y a eu tout, au dernier congrès toute une grande composante, une composante importante qui s'est déclarée sur cette logique-là. Donc ce n'est pas des forces secondaires, ce n'est pas un rapport de force absolument gigantesque, mais ça représente du monde.
C'est sûr que l'un des enjeux de ce texte, ce sont les débats internes du Parti communiste, et qu'à l'origine de ce texte, il y a en effet un courant du Parti communiste qui, à juste titre, n'a pas envie que son parti s'engage dans un soutien à je ne sais quel Montebourg ou quoi, ni à la présentation d'une candidature pur sucre du Parti communiste. Mais ce sont leurs débats internes, ce n'est pas la gauche radicale dans son ensemble, ce n'est pas la gauche critique dans son ensemble. Et je pense qu'enfourcher ce cheval au nom des intérêts particuliers que ces gens-là ont dans leurs débats internes, ne peut avoir pour conséquence que, et c'est le dernier point de ce que tu dis la recomposition, ça ne doit pas être comme ci, ça doit plutôt être comme ça, etc. Mais on construit la recomposition à travers la campagne que l'on mène. On construit, si être aujourd'hui dans la gauche radicale, dans la gauche critique, a pour effet nécessaire de dire « il faut soutenir Jean-Luc Mélenchon », on construit le personnage, on construit le leader dont nous connaissons le tropisme bonapartiste, etc., comme étant l'interlocuteur. C'est ce qui s'est joué, c'est un aspect de ce qui s'est joué en 2012. Parce qu'en 2012, c'était différent. Mélenchon, il sortait de nulle part, on construit le front de gauche, excellente ouverture de la part du Parti communiste, choix extraordinaire de soutenir un candidat qui n'est pas issu de ses rangs. Mais immédiatement après, Mélenchon s'est considéré comme l'héritier de la campagne de 2012. Il dit lui-même d'ailleurs que pour sa campagne de 2017, il dispose déjà d'un coussin de 5 millions de voix, comme si ça avait été sa campagne personnelle. Reproduire ça en 2017, c'est le mettre en situation de dire « la gauche, c'est moi ». Et les reconstructions à travers tout ce frémissement d'horizontalité, de recherche, de formes nouvelles dans la politique, tout ce qui se trouve dans les Nuits debout et dans le mouvement social, etc., soit ne s'y retrouvera pas, soit se retrouvera comme contraint et forcé dans cet entonnoir-là. C'est un risque qu'on ne peut pas éviter de discuter et d'analyser. C'est le risque de nous trouver dans l'incapacité de rassembler bien au-delà de ce que nous rassemblerions ou que vous rassembleriez autour de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il va y avoir aussi beaucoup d'abstention à gauche. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, je ne suis pas pour dire les élections, on s'en fiche. Il va y avoir beaucoup d'abstention à gauche, précisément parce que ce type de discours, ce type de pratique politique, indépendamment même des griefs précis qu'on peut avoir sur la nation, les migrants, etc., ce type de discours « rassemblez-vous autour de moi » sort par les trous de nez de milliers de militants, en particulier de ces secteurs qui ont été si actifs au printemps dernier.
Le principe même de la présidentielle, pour la plupart des gens qui sont impliqués dans Nuit debout, par exemple, qui est un mouvement qui est très horizontaliste et qui se méfie des institutions et des élections, pour eux, même à la limite, le seul projet vis-à-vis des présidentielles, c'est saboter.
Mais
il ne faut pas que 2017 ait lieu. Il y a sur les murs de Paris, mais 2017 n'aura pas lieu.
J'ai commencé mon propos en disant qu'il fallait bien noter, en le regrettant, l'impossibilité de construire une candidature qui aille avec ça. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine.
Ou une contradiction dans les termes.
Mais c'est ça le problème.
Mais
c'est
les contradictions dans les termes sont des travaux de longue haleine. Les contradictions dans les termes sont des choses qui se travaillent.
Ouais.
Une contradiction, ça se travaille.
Je pense qu'il faut faire les deux à la fois. Je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse de 2017 pour les raisons de rapports de force globaux dont je parlais tout à l'heure. Mais je partage tout à fait l'idée qu'une bonne partie de ceux qui se sont mobilisés avec Nuit debout, une bonne partie des intellectuels, une bonne partie des animateurs syndicaux du mouvement social, Mélenchon, ce n'est pas leur tasse de thé. Comme n'est pas leur tasse de thé la plupart des candidats, ce n'est pas spécifiquement Mélenchon. Donc ce serait une erreur de tout vouloir mettre. Et c'est pour ça, par exemple, que ce texte n'est pas parti dans du tout de rentrer dans France Insoumise, bien qui sûr, aboutirait oui. exactement au résultat que tu décris, Laurent, hein, et qui n'est pas du tout, moi, ce que je compte faire. Moi, je pense vraiment que si on prend les choses de façon un peu plus globale, du point de vue de la gauche radicale, en tout cas en Europe, il y a deux moments absolument importants. Le premier, c'est 91, le deuxième, c'est 2011. Hein, pour ouais. essayer de comprendre, en voyant ce qui s'est passé dans d'autres pays, ce à quoi on peut s'attendre, nous. En 91, il s'est passé deux choses en même temps. La chute du mur et de l'Union soviétique, l'Union soviétique c'est 91, le mur évidemment c'est 89, a eu deux conséquences. Une bonne partie de la gauche s'est complètement social-libéralisée, c'est Tony Blair, hein, il arrive trois ans plus tard au pouvoir, Schröder, etc. C'est la troisième voie qui en France va prendre l'expression de Valls, Macron ou Hollande, hein, bien évidemment aujourd'hui. Bon, et ce qui a évidemment ouvert un espace à gauche dans tout ce qu'est ce que nous appelons la gauche radicale, pour le dire vite. Et puis de l'autre côté, les vieux débats, ceux qui opposaient communistes et trotskistes, trotskistes et maoïstes, etc., n'ont plus eu de sens. Hein. Qui va se réclamer du maoïsme aujourd'hui? Qui va se battre sur qu'est-ce que Lénine, Trotsky et Staline?
Du trotskisme, j'en connais.
Oui, il y en a encore quelques-uns, mais enfin, ça n'a plus vraiment de sens. Hein. Bon. Et donc l'idée, dans toute l'Europe, comme dans beaucoup de pays du monde, que tout ça mérite d'être mis un peu de côté, ça ne veut pas dire d'être abandonné, mais qu'en gros, il y a des choses plus importantes que ces débats-là, c'est imposé un peu partout. Et donc on a eu un peu partout, sauf en France. Hein, bon, là, la France a été un peu particulière pour des raisons qui tiennent, à mon avis, en grande partie au poids, non pas tant électoral, mais d'appareil du Parti communiste français, hein, bon, qui est quand même, pour revenir sur 2012, hein, c'est un tout petit aparté, a été le principal responsable de l'immobilisme dans le Front de Gauche, en refusant d'envisager...
Dans l'après 2012.
Dans l'après 2012. Oui, oui. Hein, non, pas dans l'avant 2012, il a été parfait. Moi, je suis d'accord avec toi, avec une ouverture tout à fait positive. Bon, mais l'idée, une des blagues qui circule aujourd'hui, c'est de considérer qu'il y a beaucoup de dirigeants du Parti communiste français qui, aujourd'hui, en 2016, préparent le centenaire, pas de la révolution d'octobre. La naissance du Parti communiste.
Ouais. Voir le leur. Voilà. Voir le leur.
Bon, mais je finis simplement là-dessus. Donc on a vraiment en 91 ce moment-là, et qui va aboutir à Refondation communiste, des Linke, beaucoup de formations vont naître de cela. Bon. Et puis on a un deuxième moment qui est très frappant, parce que ce premier moment de 91 va donner des formations qui ont tous un plafond de verre autour de 10%. Hein, tout ça va se promener entre 5 et 10, suivant les élections, un peu partout. Bon. Et puis 2011, c'est Occupy, c'est les Indignados, les McKinsey, etc. Et cette montée énorme va être à la fois une montée importante sur le plan social en Espagne, en Grèce, etc., mais aussi va mettre dans le débat politique des choses qui vont marquer très très profondément. Le système bancaire, c'est plus possible. Le système financier, c'est plus possible. Les 99%, c'est plus possible qu'ils subissent le fait que les 1% sont en train de s'accaparer en fait toutes les richesses du monde. Bon,
et ce qu'on appelle le principe démocratie, c'est à un moment où tout à coup la question des formes de la démocratie devient complètement centrale.
Et là, le plafond de verre qui bloque la gauche radicale explose. Et on va voir arriver, mais alors de façon complètement différenciée d'un pays à l'autre, donc il n'y a pas de recette magique. C'est ça qui est compliqué pour nous. C'est qu'on va voir tous les cas de figure. Le cas de figure de Syriza, c'est une coalition de la gauche radicale. Ce serait une coalition plus à gauche que le Front de Gauche, entre NPA, Lutte ouvrière, Ensemble, un bout du Parti communiste. C'est ça, Syriza. C'est 19 partis d'extrême gauche, hein, ouais. Bon, dont beaucoup de maoïstes et trotskistes. C'est pour ça que je donne l'exemple du NPA et du LO.
Enfin, bon, non, un petit bout du... pour tout le monde, c'est la défaite en race campagne de Tsipras.
Dans un deuxième temps.
Ça représente plus rien.
Mais si on regarde ce que ça a été au démarrage, ça a été ça. Bon. Ouais. Podemos, totalement différent. Mouvement totalement nouveau, avec d'autres problèmes, hein, puisqu'on a aussi là une vision inspirée des latino-américains, assez verticale, du rapport aux leaders, etc., un peu à la Mélenchon. Hein,
oui, qui, bah, populiste, il y a une dimension du populisme.
Oui,
alors,
qui se revendique.
C'est un mot compliqué sur lequel on
viendra
après. Mais...
À la mode moufle et bah, la clo.
Ouais.
Évidemment, de l'idée que le populisme, c'est l'idée de mettre dans le débat public de l'affrontement, et qu'on a besoin de cet affrontement. Ça, je partage. Le populisme de gauche, non. Mais l'idée de l'affrontement n'est pas fausse. Hein. Bon, mais on pourra y revenir tout à l'heure. Donc, on a un autre cas de figure, qui est
une
formation...
Tout à fait
nouvelle, c'est pour ça que je... Et puis on a un troisième cas de figure qui est le plus étonnant pour nous Français, qui n'aura pas lieu, j'espère, en France, c'est Corbyn et Sanders.
Ouais.
C'est-à-dire comment toutes ces forces militantes, en particulier dans la jeunesse américaine et britannique, s'investissent dans des vieux cadres qui, pour nous tous, apparaissaient dépassés, qui s'intéressent au Labour. Je veux dire, c'était vraiment...
Et au Parti démocrate.
Et au Parti démocrate, encore plus, de toute façon. Bon, et donc on a des résultats à la fois passionnants, parce que là, c'est vraiment le plafond de verre explose, hein, je veux dire, bon, mais dans des cadres où on n'a pas une voix unique. Donc ça nous oblige à repenser stratégie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que... Autour de ce qui s'est passé ces dernières années, on sort du fait que la gauche radicale est un peu prisonnière de sa base sociale historique, hein, qui est une base sociale ouvrière, pour ce qui est du Parti communiste français, mais de moins en moins, et beaucoup service public. Je veux dire, bon, Besancenot était un peu le symbole de ça, postier, moi je viens du monde des télécoms, d'autres venaient de la SNCF. Bon, le service public en France était absolument déterminant pour la construction de ce réseau militant qui a été si important dans toutes les manifs depuis 95, hein, de 95 à 2016. Bon. Et de voir comment est-ce qu'on peut s'adresser à deux autres populations et de monter une stratégie qui permet de combiner tout ça, ce qui ne va pas de soi. Il y a évidemment tous ceux des quartiers dits populaires, ces populations d'origine immigrée, toute l'importance des combats contre l'islamophobie, des choses que nous pouvons partager, évidemment, Laurent et moi. Et puis aussi ce qui s'est joué à Nuit Debout. C'est-à-dire qu'on a dans les centres-villes aujourd'hui des populations qui sont des intellectuels plus ou moins précaires. Tout ça forme des populations qui ne sont pas les mêmes, mais qui vont porter des combats un peu différents. Mais c'est autour de ça qu'il faut reconstruire un projet stratégique. Et pour moi, ça passera par beaucoup d'horizontalité. Ouais. Et je pense que ça ne passera pas par la campagne présidentielle, pour le dire vite, en tout cas pas directement du résultat de la campagne présidentielle. Pour présenter un petit peu ce qui est, de mon point de vue, les choses essentielles.
Ouais, ce qui m'intéresse beaucoup, indépendamment des développements que tu as fait sur la gauche en général, en Europe et dans le monde, mais ça ne passera pas par la campagne 2017. Ce qui vient tempérer sans le supprimer, la formule que tu employais tout à l'heure, qui était « nous ne devons pas faire l'impasse sur 2017 ». Mais je ne parle pas de faire l'impasse sur 2017. Comme toi, je suis quelqu'un qui ne considère pas que faire de la politique passe nécessairement par le mot d'ordre « voter un tel » et être présent dans la campagne électorale, être présent dans le débat politique tel qu'il va se dérouler à l'occasion de cette campagne électorale, peut prendre mille formes, mille aspects, avoir mille mots d'ordre et mille expressions qui ne passent pas par la phrase « ouvrez les guillemets, votez un tel, fermez les guillemets ». Ça n'est pas ça, faire de la politique. Prétendre que faire de la politique soit nécessairement prendre parti pour un candidat dans une élection est une imposture que nous avons dépassée depuis tellement longtemps que j'ai du mal à comprendre qu'on en parle encore et qu'on en parle dans la gauche radicale, dont l'ADN précisément consiste à dire que la politique ne se limite pas à ça.
Non, tout à fait d'accord, ne se limite pas à ça.
Oui,
non,
mais c'est quand même aussi ça.
Mais c'est aussi ça.
Oui, mais non, mais quand je dis ne se limite pas à ça, c'est parce que nous avons beaucoup de gens qui disent, qui écrivent, si nous n'avons pas de candidat, nous mourrons. Si nous n'avons pas de candidat, nous disparaissons politiquement. Ça serait la disparition politique d'une organisation que de ne pas avoir
de
candidat.
Mais Laurent,
Et c'est ce qui les conduit à se résigner, à défaut de la candidature qui leur aurait plu, à se rabattre sur celle-là qui ne leur plaît pas.
Mais c'est pas du tout une résignation. Hein, c'est vraiment le résultat d'un raisonnement, comme je disais tout à l'heure, par l'absurde. C'est que si nous ne le faisons pas, à l'inverse, on a une situation dans laquelle le rapport de force électorale, qui est un des rapports de force, pas le plus important, mais un des rapports de force, sera tellement défavorable pour nous tous qu'il pèsera négativement sur les luttes à venir. C'est aussi bête que ça.
Alors, pour terminer, on n'a malheureusement pas beaucoup de temps parce que je dois vous libérer, Christophe Aguiton. Je vais dégoupiller une petite grenade, là, purement rhétorique. C'est qu'il y a le terme de national-populisme qui apparaît dans chacun de vos deux textes. Celui qui appelle à voter Mélenchon en disant qu'en fait, c'est le seul, ce serait un rempart contre le national-populisme et en l'occurrence, donc, le national-populisme, c'est le FN.
Tandis que vous partie des Républicains.
Et les Républicains, absolument. Tandis que vous employez le terme de national-populisme pour qualifier la position politique de Mélenchon. Donc là, vous qui êtes pourtant si proche intellectuellement et politiquement, vous employez le même terme, l'un pour parler de l'ennemi de Mélenchon, l'autre pour parler de Mélenchon lui-même. Alors, national-populisme, c'est le mot très à la mode en ce moment pour stigmatiser l'adversaire politique. Je voudrais comprendre l'un et l'autre, le contenu que vous mettez dans ce mot-valise pour comprendre en quoi c'est le FN et en quoi c'est Mélenchon, selon vous, le national-populisme. Laurent Lévy, en quoi Mélenchon serait un candidat national-populiste ?
Je ne veux pas attribuer un sens théorique trop précis et trop pointu à cette expression-là, qui marche avec d'autres, pour essayer de mettre un mot derrière une posture qui est, du côté populisme, l'appel direct au peuple, le doute sur l'opportunité de la division entre la droite et la gauche.
Vous prêtez pas du tout d'attention favorable à tout la tentative pour un populisme de gauche, justement qu'on évoquait tout à l'heure, que Laclos et Mouffe portent et dont Mélenchon se réclame.
Je pense que c'est à bien des égards une impasse.
D'accord.
D'autant que, et c'est toujours mon attention aux mots que l'on emploie, le mot populisme est connoté autrement. Dans le débat public, dire on va introduire un populisme de gauche, ça veut dire, bon, il y a le truc de l'extrême droite, on va faire un truc de gauche, ça passe pas forcément. Ça peut très bien s'articuler d'un point de vue théorique, c'est ce que font Laclos et Mouffe, qui n'ont rien à voir avec le fascisme,
Mélenchon se réclame, c'est ce qu'il fait sur le plan théorique.
Les traditions dont il se réclame, il en change tous les 15 jours, donc je pense pas qu'il faille aller très très loin dans cette direction-là. Mais en effet, c'est le sens qu'il donne, comme Podemos, etc. Pourquoi la question se pose, et pour moi en termes négatifs, c'est parce que derrière l'appel au peuple, il y a la notion de l'homme face au peuple, de celui qui va représenter le peuple. Et il y a tout ce côté bonapartiste qui me semble, d'un point de vue conceptuel, beaucoup plus juste de ce tropisme consistant à dire, voilà, c'est la rencontre d'un peuple et d'une personne, etc. Mmh. Un truc gaulliste.
Un gaulliste, oui, oui.
Quant à national-populiste, bah, c'est bien évidemment une référence à la récurrence de l'amour de la patrie telle qu'elle est exprimée.
Et pour vous, vous donnez un sens xénophobe. Pour vous, c'est ça, parce que ce qu'on entend dans national-populiste, c'est que ça veut dire xénophobe. Donc lui, vous considérez que dans le logiciel Mélenchon, on est vraiment là dans un rapport à la patrie ou à la nation qui est un rapport xénophobe.
Écoutez, là encore, le mot xénophobe, c'est un mot tellement injurieux et infamant qu'on ne va pas dire un tel est xénophobe. Par contre, lorsque on est sur la position, en gros, oh putain, qu'est-ce que c'est bien la France. Il y a un côté, ouais. Le Grand-Duché du Luxembourg, c'est pas aussi bien. Uh-huh. C'est-à-dire qu'il y a un côté de chauvinisme,
ouais, ouais.
Derrière ça, qui s'exprime même au corps défendant de celui qui le dit. Ma question n'est pas là. La récurrence de ces thèmes renforce dans le débat public, dans l'idéologie publique, dans ce qui structure, dans l'hégémonie, du débat public renforce les réflexes qui consistent à dire oui, dans le fond, on est mieux que les autres. Et quand il dit non, Sarkozy, il a tort de dire les Gaulois, en réalité, notre identité, c'est la Révolution française, vous baladez dans le métro et vous voyez des tas de gens pour qui la Révolution française appartient à d'autres. Oui, quand vous êtes malien ou marocain, vous pouvez trouver que c'est bien la Révolution française, mais vous ne pouvez pas la prendre pour votre identité.
Oui, voilà. D'accord. Alors pour conclure, donc, Christophe Aguiton, sur la notion de national-populisme social-chauvinisme, je pense.
Oui. Voilà. Le problème des textes qu'on écrit à plusieurs, c'est que, bon, on n'est pas toujours d'accord avec toutes les formules. Ce n'est pas bien celle sûr. Que j'aurais employée, non.
D'accord. Donc,
franchement, ce n'est pas trop mon truc. Le terme populisme, en effet, a été repris par la Chloé Mouffe dans un contexte assez particulier. Il s'agissait en Amérique latine de permettre à des formations de gauche de pouvoir s'exprimer face aux élites, etc., en recréant du conflit. Bon, ils l'ont fait en justifiant des pratiques, là aussi très bonapartistes, hein, très caudilliste.
Vous voulez dire autoritaire quand vous dites
C'est le poids du leader.
Ouais, ah,
c'est le liderasco, hein, comme
qu'il soit autoritaire ou pas.
Hein, bon. C'est-à-dire que c'est l'idée quand même, parce que les institutions sud-américaines, nous en Europe, on est les seuls, les Français, à avoir une élection présidentielle aussi importante. Mm-hmm. En Amérique du Sud, c'est du copier-coller des institutions nord-américaines, donc le président pèse un rôle important dans des régimes plus ou moins présidentiels. Et donc ce pouvoir présidentiel a été utilisé très fortement par Chavez le premier, mais aussi par Evo Morales, Rafael Correa, et en partie Lula et Rousseff, hein, en partie, c'est un petit peu différent. Bon. Et ils l'ont utilisé beaucoup, et ça a été justifié par la Chloé Mouffe. Je pense à une importance sur Podemos et sur la façon dont Pablo Iglesias a repris le concept pour l'appliquer à Podemos. Je suis comme Laurent, je ne suis pas sûr que Mélenchon se réfère tant que ça. J'ai jamais vu Mélenchon citer la Chloé Mouffe. Peut-être
qu'il l'a fait. Ah bah si, moi j'ai ici un entretien à trois. Oui, si, il a discuté avec eux deux, donc c'était à Buenos Aires où est-ce que c'était ? Bref, avec la Chloé Mouffe, ils ont parlé à trois, ils étaient en 2012, voilà, et ils étaient tous hyper d'accord sur à peu près tout.
Hein,
C'est une parenthèse idéologique dans laquelle il se retrouve totalement.
Je serais heureux de récupérer ce texte que j'avais zappé complètement, mais je ne l'ai jamais entendu dans le discours se référer de cela, à ces textes-là et à ces références-là. Moi, je pense, comme Laurent, que c'est vraiment la posture du recours qui caractérise Mélenchon. C'est une espèce de bonapartisme, là aussi le terme est connoté, mais disons, oui, c'est la posture du recours, donc du rôle de l'individu dans l'histoire, et il pense qu'il peut jouer ce rôle-là.
Ouais.
Xénophobe, je ne pense pas. Pas simplement parce que c'est un terme injurieux, mais quand on l'écoute, c'est toujours des choses très compliquées. Il se trouve qu'on a un point commun, Mélenchon et moi, c'est qu'on a passé notre enfance à Tanger. Mmh. On a des odeurs et des musiques qui sont partagées, et il l'emploie tout le temps, ce passé-là, dans la façon dont il a de construire l'homme ou la femme méditerranéenne, son discours du Prado,
2012,
était tout à fait autour de ça.
Ouais. Qu'on aimerait bien entendre aujourd'hui.
Ça manque peut-être un peu, mais je ne pense pas qu'il l'ait abandonné. Donc je sens pas ça. En revanche, il a une vision de la France qui n'est pas forcément la mienne. Ça, j'en suis bien évidemment d'accord.
Alors, bon, je suis obligée de clore ce débat. J'aurais bien poursuivi un petit peu, mais je dois donc vous libérer. Merci beaucoup à tous les deux pour cette discussion devant nos caméras. Il était question, Christophe Aguiton, vous publiez très bientôt à la Découverte un livre qui s'appelle « La gauche du 21e siècle ». Donc, ça sort en décembre. Je vous invite à le parcourir dès qu'il sera sorti.
Laurent Lévy, vous ne m'avez pas parlé d'une actualité à sortir, mais vous êtes l'auteur de plusieurs essais qu'on peut retrouver en faisant une enquête sur Internet. Je suis désolée, j'abrège beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission spéciale ou un dans le texte ou un super truc. Voilà, à bientôt.